Nous sommes donc le dimanche du Père Miséricordieux. C'est la dernière semaine où vous pouvez manger de la viande, jusqu'à Pâques. Alors profitez-en. Oui, dans la mesure où vous pouvez, essayez de relire au long de la semaine les épîtres et évangiles des dimanches qui se suivent. Vous allez voir, chaque lecture, dans les lectures, il y a une progression qui nous amène petit à petit au seuil du carême et qui donne le sens de ce que nous allons vivre pendant une soixantaine de jours. Et si vous voulez aborder le carême avec dynamisme et foi, lisez ces écritures-là, ça vous mettra pas simplement dans l'ambiance, mais dans l'esprit juste du carême. Et à propos de cet évangile d'aujourd'hui, du fils prodigue ou du père miséricordieux, je voudrais vous montrer que, d'abord, c'est une parabole, c'est pas une histoire historique, si je puis dire. Hein. C'est le Seigneur qui invente cette parabole-là pour donner des comparaisons à ceux qui l'écoutent. Et dans cette parabole, le Seigneur montre cet enfant qui exige sa part d'héritage. Donc, il spolie son père d'une certaine manière, même si ça lui revient de droit, mais il aurait peut-être pu attendre que le père soit mort. Et il s'en va dépenser sa fortune, on dit avec des femmes et des prostituées. Il avale comme ça sa fortune, et quand il n'a plus rien à manger, fait un retour sur lui-même et dit, ah ben, quand j'étais avec mon père, au moins, j'avais de quoi me nourrir. Ce qu'il fait revenir vers son père par intérêt, évidemment, dans un premier temps. Et quand il voit la bonté du père qui l'accueille sans lui demander de compte et sans lui faire de reproches, à ce moment-là, il découvre la bonté de son père. Ce qui est, pour nous, le fond de la parabole, c'est de nous comparer, nous, au fils prodigue, et de comprendre que le père miséricordieux, c'est le père du ciel, notre père du ciel, qui nous accueille dès lors qu'on fait repentir, dès lors qu'on se retourne vers lui, qu'on revient vers lui. Tout ça, c'est classique, on doit le dire tous les ans, et même peut-être plusieurs fois par an. Mais je voudrais vous attirer votre attention sur le fait que cette parabole-là ne s'applique pas simplement à la dépense de notre fortune dans la prostitution. Ce qu'on appelle dans les Saintes Écritures la prostitution, ce sont les idoles. Quand on se tourne vers les idoles, on est prostitué. Et pas simplement le commerce charnel avec des femmes qui en font leur métier. Dans cet évangile d'aujourd'hui, ce qui est stigmatisé, ce qui est montré du doigt par le Christ, c'est, vous allez le comprendre tout de suite, c'est l'oubli de Dieu. Qu'est-ce qui nous sépare de notre Père miséricordieux? C'est l'oubli, parce qu'on trouve que il y a des choses ou des êtres, des personnes plus intéressantes que lui. Et à ce moment-là, on prend notre héritage et on s'en va dilapider cet héritage-là qui ne peut rien rapporter. Parce qu'il est où se trouve le bonheur dans la parabole, c'est dans la maison, l'opulente maison du Père miséricordieux. Et pour nous, c'est dans notre relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et tous les hommes, et avec tous les hommes. Mais à partir du moment où on se retourne sur soi-même, ce que nous faisons tous, d'une manière ou d'une autre, et c'est ça notre péché, précisément, on s'enferme sur nous, on dilapide notre patrimoine spirituel, si je puis dire, on le dilapide pour s'occuper des idoles. Et les idoles, c'est mon moi, mon plaisir, mon bénéfice, ce que je veux, etc. C'est ça qui nous sépare les uns des autres. Vous avez mis une belle tasse à Arsène, par exemple. Plutôt que de me réjouir de voir quelle belle tasse il a, je fais une crise de joie, je voudrais cette tasse-là. Vous comprenez bien que ça va créer une rivalité entre nous. C'est cet enfermement que je suis en train de vivre tout de suite. C'est ça qui fait que je deviens loin de mon père. Si bien que là, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile qui montre l'oubli de Dieu. Soit parce que je préfère autre chose à Dieu, soit parce que je l'oublie tout simplement, accaparé par mes petites affaires, quelles qu'elles soient. Mais dans tous les cas, ça c'est notre nature déchue qui est comme ça, mais dans tous les cas, quand on est éloigné de Dieu, on sent un manque. Et à ce manque-là correspond la fin de ce fils qui aimerait bien manger la nourriture des cochons pour se nourrir parce qu'eux, ils arrivent à grossir alors que lui, il maigrit à vue d'œil. Mais dès lors que par la faim, on retourne vers notre Père, on retourne vers l'essence ou l'essentiel de notre relation à lui, aussitôt, c'est le Père lui-même qui court vers nous et qui nous prend, qui nous cajole, qui nous redonne la chaleur qui nous manquait. Et à ce moment-là, il nous donne immédiatement, comme dans l'Évangile, l'anneau qui signifie la filiation avec le Père, une tunique, c'est-à-dire le manteau d'appartenance familiale, si vous voulez. Et pour nous, dans un premier temps, cet anneau et ce manteau correspondent au baptême et au sacrement dans l'Église. C'est quand on se sent éloigné du Père, c'est en rentrant dans l'Église à travers le baptême que l'on est revêtu d'une nouvelle robe, d'une robe festive. C'est cette robe-là que le Seigneur, dans une autre parabole, où le maître de maison rejette un invité à la noce, où tous sont habillés, avec ce manteau festif, c'est-à-dire le manteau, c'est d'être revêtu du Christ, ce qui s'acquiert par le baptême, et celui qui n'est pas revêtu du Christ, il n'est pas en communion avec ça, il ne sent pas ça, si vous voulez. Et c'est pour ça que dans l'autre parabole, le maître de maison reproche à cet étranger de ne pas avoir pas s'être habillé convenablement. Comment vivre cela? À l'entrée du carême, cet évangile-là nous est mis pour que on prenne conscience de notre faim, du manque que l'on a intérieurement, pour créer en nous le désir de revenir vers le Père. Et ceci nous est proposé tous les ans à la même époque, de manière à ce que d'année en année, ce soit une progression, des échelons que l'on franchit vers l'intimité avec le Père miséricordieux. Et cet évangile-là est mis au début du carême, un petit peu avant le carême, de manière à ce que on aborde le carême comme notre marche, notre retour en arrière, notre marche entre notre état d'esclave, comme était le fils prodigue, vers le Père éternel, ce qui se manifestera pour nous pendant toute cette marche du carême, qui se manifestera pour nous précisément par la participation à la résurrection du Christ et à la vision du Christ ressuscité, puis la descente de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Donc c'est un évangile, vous voyez, qui apprend à prendre à plusieurs niveaux. Notre conversion définitive, notre conversion définitive par le retour à Dieu, la conversion, j'allais dire, journalière, à essayer de ne pas oublier Dieu pour ne pas nous en écarter, et aussi pour cette période particulièrement bénie du carême, où on se met en marche, on a volonté de se mettre en marche pour revenir vers le Père miséricordieux, sûr, certain, que lui marche vers nous et n'attend qu'une chose, c'est de se révéler à nous. Le grand mystère de l'Église, c'est ce mystère pascal que l'on peut vivre chaque jour, à chaque liturgie et à chaque état de prière. La liturgie, comme vous l'avez vécu tout à l'heure, est une fête. C'est une fête pendant laquelle nous sommes tous unis, tous ceux qui sont présents, physiquement présents, bien sûr, mais aussi tous ceux qui nous ont précédés, qui sont décédés depuis belle lurette, tous ceux qui nous suivront aussi, les anges, les saints, tous nous sommes en communion avec le Père, le Fils et l'Esprit, et c'est ça qui fait une fête. Voilà la raison pour laquelle on chante les offices et on chante la liturgie. Quand on a quand on fait une fête dans le monde, entre copains, hein, on n'a pas peur d'y passer la nuit, de chanter, de chahuter, de discuter. Et ces fêtes mondaines, si on peut dire, ne durent qu'un temps, le temps de la nuit. Et on en ressort plutôt fatigué. Hein. Nous, c'est une fête éternelle. Cette fête-là, elle n'est pas pour un temps, elle n'est pas pour l'heure ou l'heure et demie de liturgie, elle est pour toute la vie et même pour toute l'éternité, puisque avec nous sont effectivement les anges, les anges et les saints, tous ceux qui nous ont précédés. Et il y a, dans la perception de cette fête qui est la liturgie, il y a une nécessité encore de pratiquer, oui, de mettre en application l'évangile dont nous parlons aujourd'hui, parce que notre liturgie est un retour de fait conscient où nous sommes entièrement à cette fête, corps et âme et intelligence et réflexion. Toute notre vie est orientée vers la rencontre avec Dieu. Et vous vous rappelez qu'avant l'hymne des chérubins, nous chantons, déposons tous aussi cette vie pour accueillir le roi de la gloire. Et c'est précisément ce mouvement-là à la liturgie qui nous demande de déposer, d'abandonner tous les soucis de notre vie, c'est-à-dire toute notre logique humaine, tout notre humanisme, de laisser ça pour nous élever à un état d'existence supérieur à cet état purement humain et historique, de manière à pouvoir percevoir, sentir, par la foi bien sûr, que nous sommes un avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les anges, les saints et tous ceux qui sont les membres du corps de Christ. Donc quand on chante « Déposons tous cette vie pour accueillir le roi de la gloire », c'est exactement l'illustration de la parabole du Fils prodigue.